Merci. Bonjour mesdames, bonjour mademoiselle, bonjour messieurs. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire de tous les mercredis. Pour la conférence de ce jour, pour l'équipe Pays des Nations Unies, nous allons avoir Florence Marchal du pilier développement. Nous aurons aussi Yvan Edonou pour le pilier humanitaire. Nous avons avec nous le commandant de la COSSE pour les informations concernant la situation sécuritaire. Je suis Madnos Mounoubaï. Commençons tout de suite avec la MONUSCO. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Roger Nice, est rentré dimanche à Kinshasa après une mission qui l'a conduit d'abord à Goma où il est allé se rendre compte de la situation sécuritaire et ensuite à Addis Abeba où il a rejoint l'équipe du secrétaire général adjoint des Nations Unies qui a pris part au sommet de l'Union africaine. Sur un autre chapitre, la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Leila Zerougui, vient quant à elle d'être nommée représentante spéciale pour les enfants en période de conflit armé. Madame Zerougui remplacera à ce poste Madame Radhika Kumaraswamy. Plus de détails dans un document qui vous sera distribué à la fin de cette conférence de presse. Nous passons aux droits de l'homme. Pour du 9 au 13 juillet 2012, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a accompagné une délégation de la vice-ministre chargée des droits humains en visite dans la province orientale. Des représentants de la section appui à la justice et de la force de la MONUSCO ont accompagné aussi la ministre dans cette mission. Cette visite avait pour but de dresser un état de lieu de la situation des droits de l'homme et des prisons dans la province orientale. La visite s'est finalement conclue à Kisangani avec le lancement d'un atelier de vulgarisation portant avec un atelier de vulgarisation sur la criminalisation de la torture. Nous allons terminer en ce qui concerne la MONUSCO avec la police MONUSCO, la formation de base au centre d'instruction de Muguga à Goma au profit de 293 éléments intégrés de la police nationale congolaise dont 24 femmes, commencé le 9 juillet, s'est achevé le 16 juillet. Une autre formation en police technique et scientifique des éléments de la police nationale spécialisée dans la lutte contre les violences sexuelles qui avait débuté le 26 juin 2012 s'est clôturée le 11 juillet dernier à Bunia. 17 apprenants y ont pris part. Je passe donc la parole tout de suite à Florence Marchal pour l'équipe pays pour les questions de développement.
Merci, Moulibaï. Bonjour à tous. Les restitutions concernant les résultats provinciaux de l'enquête mixte 2010, l'enquête à grappes à indicateurs multiples, publiée l'année dernière, se déroule actuellement dans les 11 provinces de la RDC. La restitution de la ville-province de Kinshasa a lieu ce mercredi 18 juillet en présence du gouverneur André Kimbuta. Les résultats qui seront publiés concernent notamment des données relatives à la survie de l'enfant, à l'accès des ménages à l'eau et à l'assainissement, à la protection de l'enfant et à l'éducation de base. Les progrès vers la réalisation des objectifs millénaires pour le développement, les OMD, pour la province de Kinshasa seront également annoncés en marge de cette restitution. Dès que les informations seront disponibles, l'UNICEF et la MONUSCO vous les feront parvenir par les canaux habituels. La prochaine campagne de vaccination contre la rougeole commencera dès la semaine prochaine au Katanga, avant de se poursuivre du 7 au 11 août prochain dans 47 zones de santé couvrant l'ensemble des provinces de la RDC, sauf celle du Sud-Kivu. À cette occasion, le gouvernement, en collaboration avec ses partenaires, l'UNICEF et l'OMS, procédera à la vaccination de 2 600 000 enfants de 6 mois à 14 ans révolus. Comment lutter contre le virus bactérien du gonamier et éviter sa progression? C'était le thème d'un atelier organisé la semaine dernière à Goma avec la participation d'une trentaine d'experts du ministère de l'Agriculture, des agences des Nations Unies, d'organisations humanitaires, institutions de recherche et universitaires, ainsi que des représentants du pouvoir coutumier et des producteurs. L'enjeu est de taille, car la culture du bananier est de toute importance à l'est de la RDC, à la fois d'un point de vue économique, alimentaire et culturel. Alors, en dépit d'efforts soutenus pour lutter contre la maladie, celle-ci continue à se propager et on a aussi pu noter la progression du virus bactérien dans des zones jadis indemnes, en Iturie ou dans le site Kivu. Par ailleurs, depuis quelques mois, des symptômes similaires au virus bactérien du bananier ont été observés dans plusieurs autres territoires. Les experts ont donc recommandé la mise en place d'un réseau de surveillance et d'alerte. Parce que la terre doit unir et non diviser, parce qu'elle peut enrichir mais sûrement pas appauvrir, parce que la terre doit nous faire vivre et non nous faire tuer. Alors, ce sont quelques formules choc pour mieux situer la problématique des ressources foncières et des conflits qui en découlent. Et c'est le thème d'un atelier national de haut niveau qui va être organisé du 19 au 21 juillet à Kinshasa. Pendant 3 jours, des représentants du gouvernement, des institutions nationales et provinciales, des particuliers, de l'administration foncière, société civile, secteur privé, des bailleurs de fonds, du système des Nations Unies et d'ONG seront rassemblés afin de développer une feuille de route pour le processus de réforme foncière en RDC. Cette réforme devrait déboucher sur l'adoption d'une nouvelle politique foncière et à la révision de la loi de 1973. Le résultat escompté à terme est de contribuer à l'amélioration du climat des affaires et au développement économique et social. Alors, pour plus d'informations sur cette question foncière et sur le rôle de UN Habitat ici en RDC, je laisse la parole pour quelques minutes à notre collègue Omar Silla d'UN Habitat qui est à côté de moi et qui va vous donner donc quelques informations et qui, bien sûr, sera à votre disposition à l'issue de la conférence de presse pour vous apporter plus de renseignements si nécessaire. Omar, c'est à toi.
Merci Marshall. Comme vous venez de l'annoncer, UN Habitat est présent à l'est de la RDC depuis 2009. Ouais, donc l'objectif de la présence de UN Habitat, c'est pour appuyer les efforts de stabilisation et de relèvement communautaire à travers la prévention et la résolution des conflits fonciers. Comme vous le savez sans doute, l'enjeu foncier est de taille pour la stabilisation, pour le développement économique, mais aussi pour la réconciliation et le dialogue intercommunautaire. C'est dans ce sens-là, en partenariat avec la HR et d'autres acteurs du système des Nations Unies, nous avons mis toute une stratégie de prévention et de résolution des conflits fonciers à l'est de la RDC. Pour plus de détails, nous sommes présents au Nord Kivu, au Sud-Kivu et en Ituri. Et le travail nous a permis jusqu'ici d'identifier plus de 1754 conflits fonciers dans le district de l'Ituri depuis 2009 jusqu'à maintenant, et plus de 1839 dans le Nord Kivu sur lesquels nous travaillons et qui nous permettront d'avoir une bonne compréhension des enjeux fonciers et des acteurs qui sont en cause. Pour revenir à cet événement national, effectivement, le gouvernement a initié cet atelier national qui est une grande opportunité pour nous, acteurs qui appuyons le processus de développement et de stabilisation, pour voir comment capitaliser l'expérience que nous développons dans ces expériences pilotes dans l'Est en vue d'améliorer le cadre juridique institutionnel en matière de gestion foncière. Parce qu'on s'est dit que s'il n'y a pas un cadre juridique ni une vision claire du gouvernement, donc nous aurons du mal à trouver des solutions durables. C'est dans ce sens-là que nous trouvons cet atelier très très pertinent et l'objectif qui est visé à travers cet atelier comme pour le gouvernement, c'est d'en arriver à une feuille de route pour voir comment la question foncière devrait être adressée d'une manière générale, d'une manière très durable en RDC, pour trouver un consensus entre acteurs du foncier, mais aussi pour trouver un consensus entre différentes lignes ministérielles dans le problème foncier, parce que c'est une question très transversale, parce qu'il y a l'aspect minier, il y a l'aspect foncier et il y a l'aspect décentralisation. Tous ces aspects, donc, et la volonté affirmée par le gouvernement aussi, à travers le discours du président de la République du 20 décembre, a donné tout un ton à cet atelier, car le président veut promouvoir une réforme compréhensive du secteur foncier, mais aussi mettre fin aux conflits fonciers. Je pense que pour nous, acteurs de développement, c'est une grande opportunité pour voir comment appuyer ces efforts du gouvernement pour trouver des solutions durables à ces questions foncières, qui sont aussi bien des obstacles au développement, à la cohésion sociale et au relèvement communautaire. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Je passe donc la parole à
ils vont pour les questions humanitaires. Ils vont.
Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs. Le programme humanitaire mondial a repris ce lundi ses opérations dans le Nord Kivu. Opération que l'agence onusienne avait temporairement suspendue suite à la dégradation de la situation sécuritaire dans le Nord Kivu. Écrit le lundi 16 juillet dernier, le port a affirmé la nourriture pour 87 000 personnes vivant sous l'axe routier Walikale-Goma. Ce matin, des camions sont également partis vers Rutshuru pour apporter la nourriture aux déplacés installés dans des camps. En tout, 82 000 personnes déplacées, reparties dans 31 camps de Rutshuru et de Matissi, recevront une assistance alimentaire dans les semaines à venir. Le PAM a également entamé cette semaine une opération sous forme de coupons pour environ 20 000 déplacés du camp de Rébéti dans la région de Béni. Les bénéficiaires des coupons ont la possibilité de les échanger auprès des commerçants locaux contre un certain nombre d'aliments présélectionnés. Ce type d'assistance offre plus de soins et de dignité aux bénéficiaires tout en revitalisant les marchés locaux et la productivité. Dans la seule province du Nord Kivu, le PAM prévoit d'apporter dans les prochaines semaines une assistance à quelque 320 000 personnes, dont environ 250 000 nouveaux déplacés. Les actions humanitaires avaient été à diverses degrés perturbées par les événements du 6 juillet dernier dans le Rutshuru. Aucune organisation, ni des Nations Unies, ni ONG n'avait quitté la province, mais nombreux ont dû soit suspendre temporairement leurs activités, soit réajuster leurs interventions. Avec la très relative accalmie qui prévaut, les organisations humanitaires sont prêtes de déterminer les besoins et d'apporter l'aide qui se doit. Ce matin, nous revenons sur le choléra, une épidémie qui a fait près de 41 000 cas avec plus de 1000 décès depuis janvier 2011. La lutte contre le choléra se trouve à un tournant inquiétant lié au financement des activités de prévention et de réponse. Au cours des 9 derniers mois, le CERF, un mécanisme de financement rapide des Nations Unies, a injecté 13 millions de dollars, ce qui a contribué à contenir la maladie. Cependant, de nombreux projets financés par ce fonds prendront fin d'ici la fin de ce mois, et la question qui se pose est où trouver des fonds suffisants pour les mois à venir. Après avoir fait deux allocations, il n'est pas acquis que le CERF en fasse une troisième. Les fonds propres des agences spécialisées dans la santé sont-elles suffisantes? De quelles ressources dispose le gouvernement congolais? Ces questions se posent alors que la maladie continue de progresser. Au cours de la dernière semaine, 4 zones de santé dans les provinces de l'Équateur, Bas-Congo, Sud-Kivu et en province orientale sont entrées en épidémie. Au 10 juillet 2012, l'Organisation mondiale de la santé et le ministère congolais de la santé publique ont enregistré plus de 19 200 cas de choléra, un chiffre qui représente 90% du nombre total de cas enregistrés durant l'année 2011. Et pour terminer dans le Sud-Kivu, plus de 28 000 enfants de moins de 5 ans n'ont pas été vaccinés dans la zone de santé du Tonglé lors de la campagne de vaccination de routine de juin dernier. Les équipes n'ont ainsi pas pu vacciner les enfants contre, entre autres, la coqueluche, le tétanos, la tuberculose, à cause de l'insécurité liée à l'activité des groupes armés. Ce manque d'accès expose ces milliers d'enfants à ces maladies qu'on peut prévenir. Les spécialistes de la santé de la province réfléchissent sur la possibilité d'organiser la vaccination à travers des ONG locales basées dans la zone. Merci.
Merci Yvon, je passe maintenant la parole au commandant de la Corse.
Merci Mizoubaï, bonjour à tous. Dans la partie occidentale de la République démocratique du Congo, pour commencer, en dehors de récurrence d'activités de banditisme ou de conflits conscients ou ethniques, le calme a été observé la semaine dernière. En province orientale, la situation sécuritaire est restée stable, avec un nombre limité d'incidents, mais reste imprévisible. Dans la région de Dongu, la force de la MONUSCO et les forces armées de la République démocratique du Congo, les FRDC, ont poursuivi leurs opérations conjointes. L'opération Bienvenue à la paix se poursuit dans le but de faciliter la reddition volontaire des éléments de l'armée de résistance du Seigneur, la LRA, et de sécuriser la région. Dans le cadre de l'opération Touma Ngoumi, point d'acier, la force de la MONUSCO a encore mené des patrouilles aériennes, notamment le 12 juillet au-dessus de la région d'Aba, près de la frontière avec le Sud-Soudan. Du 9 au 15 juillet, le bataillon marocain de la force de la MONUSCO a escorté une équipe conjointe de protection composé de sections substantives de la MONUSCO et de représentants d'agences des Nations Unies, à Ndilima, Randouala, Kapélé et Bangali. En Ituri, la situation sécuritaire a été émaillée de quelques incidents et la situation du front de résistance patriotique de l'Ituri, le FFPI, reste inchangée. L'opération conjointe Eagle Claw, les frères de l'aigle, en cours au sud du territoire d'Iromou, s'est normalement poursuivie par une campagne de sensibilisation et des patrouilles régulières pour suivre la situation sécuritaire. Le 12 juillet à Koga, à 28 km au sud de Niamey, le déploiement proactif d'une patrouille depuis le poste opérationnel de Bogoro a fait avancer l'attaque de miliciens armés. Du 14 au 16 juillet, la force de la MONUSCO a déployé une base mobile temporaire à Mambasa, permettant de conduire des patrouilles jusqu'à Epoulou afin de sécuriser la zone, d'évaluer les situations sécuritaires et de prodiguer quelques soins médicaux à la population. La situation sécuritaire demeure tendue au Nord Kivu, surtout dans les territoires de Rutshuru et Masisi, sous la menace du M23 qui occupe toujours la région de Bunagana, de Runyoni et de Tchenderero. Les FRDC poursuivent la réarticulation et le renforcement de leurs unités dans la zone, en coordination et avec le soutien de la force de la MONUSCO. Des troupes nombreuses ont été déployées dans la région de Goma afin d'interdire toute action du M23 contre la ville et d'assurer la protection des populations civiles. La force de la MONUSCO mène quotidiennement des patrouilles terrestres et aériennes pour suivre au plus près la situation de la zone en surveillant les éléments disséminés du M23 afin de prévenir toute nouvelle offensive de sa part et assurer la protection des populations. Ainsi, les unités motorisées de la force onusienne ont mené des patrouilles régulières dans et autour des villes de Goma, Kibumba, Rugari, Tetele, Rumonyabo, Kiwanja, Borai, ainsi que de nombreuses autres localités. Le 12 juillet, une forte concentration de combattants du M23 a été repérée en mouvement le long de l'axe Kanombe, Lisisi, Gungo. Après que le M23 ait tiré au mortier près de Ngungo, à 5 km à l'est de Rugari, et blessé 4 civils, la force de la MONUSCO a procédé à une démonstration de force avec ses hélicoptères d'attaque afin de dissuader le M23 d'avancer plus loin. Cette action a aussi été l'occasion de délivrer un message clair sur la limite à ne pas franchir, en particulier en direction de Goma. Ailleurs dans la province, les forces onusiennes et gouvernementales surveillent étroitement les activités des différents groupes armés, tels que le FDLR, l'Alliance des forces démocratiques, ADS, et les différents groupes Maïmaï, en particulier les Raia Motumbuki. Les déploiements de patrouilles continuent de dissuader ou de neutraliser toute initiative d'attaque armée susceptible de compromettre la sécurité des populations civiles. La force de la MONUSCO a poursuivi ses opérations unilatérales, Amani Korodesha, restaurer la paix dans la région de Ntoto et Ngungu, Strong Presence, présence renforcée dans la région de Bunyampuli, Instill Confidence, inspirer la confiance dans la région de Nyanzale et Luofu. Elle mène des patrouilles intensives en s'appuyant sur ses postes permanents ou ses déploiements temporaires. Le 17 juillet à Walikale, Walikale a subi une attaque des Raia Motumbuki. Vers 9h, les militants ont d'abord attaqué les positions FRDC de Kampala, à 12 km au sud-est, et de Dingala, pardon, à 20 km au nord-ouest. Le départ des FRDC de Kampala a permis à plus d'une centaine de miliciens d'entrer dans Walikale dans l'après-midi. Dès 9h15, le détachement de la MONUSCO avait dépêché deux patrouilles pour suivre la situation. Et à partir de 11h, s'était attaché en priorité à assurer la protection des civils rassemblés autour du bureau de l'administrateur, ainsi que celle des nombreux travailleurs humanitaires mis à l'abri à l'intérieur du poste. Dans l'après-midi, le détachement a été renforcé de deux unités de réaction rapide héliportées depuis Goma. Actuellement, les Raia Motumbuki contrôlent encore la ville avec le soutien d'une partie de la population, mais des renforts à CRDC sont annoncés. Au sud Kivu maintenant. Malgré l'environnement sécuritaire volatile, la situation sécuritaire est restée sous contrôle. En raison notamment de certains vides sécuritaires dus au redéploiement des unités FRDC au Nord Kivu, l'activisme de certains groupes armés reste important dans la province. Les éléments du FDLS, les Rayamotomoki et les Maïmaï Nakatumba continuent de mener leurs activités dans les territoires de Kalehe, Shabunda, Uvira et Fidji et constituent toujours un objet de forte préoccupation. L'opération conjointe à Manikimilikamilifou est toujours provisoirement suspendue. Seul un bataillon FRDC reste sur le terrain avec 3 postes de commandement conjoint et 4 postes temporaires de la force de la MONUSCO pour assurer la protection des populations. En outre, les opérations unilatérales de la force, Ilbilo Salama, refuge sûr, Kesha, protecteur, et Kouamancho, vigilance, sont en cours. Les postes opérationnels ont été déployés dans les territoires de Walungu, de Sidi et de Kabaré pour dissuader l'activisme des groupes armés et compenser le départ d'unités des SRDC. Le 12 juillet 2012, les autorités locales ayant participé aux réunions d'évaluation de la situation sécuritaire au poste opérationnel de la MONUSCO de Kalehe et de Shabunda ont exprimé leur satisfaction à l'action menée par la MONUSCO et assuré leur entière collaboration au maintien de la paix dans la région. La situation sécuritaire est demeurée relativement calme la semaine dernière au Katanga, mais reste fragile. Aucun rapport d'incident de groupes armés n'a été signalé dans le secteur 2, dans la région de Kisangani ou de Kindu, où la situation sécuritaire est restée aussi relativement calme. Enfin, les statistiques des patrouilles de la force de la MONUSCO sont les suivantes. 1328 patrouilles armées, dont 580 nocturnes, 72 escortes et 324 patrouilles d'observateurs militaires. Je vous remercie de votre attention.